À 11h59, Jason mit enfin le dernier policier dehors. Le commandant s'en alla, puis le chargé d'enquête, les techniciens de scène de crime et les agents en tenue. Seul un enquêteur en civil resta, ostensiblement garé devant la maison, dans une Ford Taurus marron. Par la fenêtre de la cuisine, Jason pouvait observer l'agent, le regard fixé droit devant lui, qui tour à tour bâillait et buvait à petites gorgées un café Dunkin' Donuts. Au bout d'une minute, Jason s'écarta de la fenêtre, prit conscience que la maison était de nouveau toute à lui, et chancela pratiquement en se demandant ce qu'il allait faire. Ree le regardait avec ses grands yeux marrons si semblables à ceux de sa mère. « Déjeuner, » dit Jason légèrement surpris par le son rauque de sa voix. « On va déjeuner. Papa, tu as acheté des Oreos ?»« Non. » Elle poussa un grand soupir, mais se tourna tout de même vers la cuisine. « On devrait peut-être appeler maman. Peut-être que si elle est près d'un magasin pour chercher Mr. Smith, elle pourrait rapporter des gâteaux. » « Peut-être, » dit Jason qui parvint à ouvrir la porte du réfrigérateur malgré le violent tremblement qui agitait sa main. Il fit tout le déjeuner en mode automatique. Trouva le pain, sortit les tranches au blé complet, mélangea le beurre de cacahuète naturel, étala la confiture, compta 4 carottes, prit un peu de raisin blanc, disposa le tout sur une assiette ornée d'une marguerite avec le sandwich coupé comme il se doit, en diagonale. Ree commentait à n'en plus finir la grande évasion de Mr. Smith. La rencontre qu'il ne manquerait pas de faire avec Pierre Lapin et le fait qu'ils rentreraient peut-être tous deux à la maison avec Alice au Pays des Merveilles. Ree était à l'âge où elle confondait facilement fiction et réalité. Le Père Noël existait, la fée Clochette était copine comme tout avec la petite souris, et il n'y avait aucune raison pour que Clifford, le gros chien rouge, n'ait pas rendez-vous pour jouer avec Mr. Smith. C'était une enfant précoce, pleine d'énergie, de grandes espérances et de folles exigences. Elle pouvait faire une colère de 3 quarts d'heure parce qu'elle n'avait pas la bonne nuance de chaussettes roses. Et elle avait un jour refusé tout un samedi matin de sortir de sa chambre, furieuse que Sandra ait acheté de nouveaux rideaux pour la cuisine sans la consulter. Et pourtant, ni Sandra ni Jason n'auraient voulu changer quoi que ce soit. Il la regardait, Sandra la regardait, et il voyait l'enfance que ni l'un ni l'autre n'avait jamais eue. Il voyait l'innocence, la foi et la confiance. Il se délectait de ses câlins faciles, ne vivait que pour son rire communicatif. Et tous deux s'étaient très tôt entendus sur le fait que Ree passerait toujours en priorité. Ils auraient fait n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. Jason jeta un regard vers le véhicule banalisé garé devant chez lui, sentit son poing se serrer par automatisme et réprima ce réflexe. « Elle est mignonne !»« Mr. Smith est un garçon, » répondit-il machinalement. « Pas Mr. Smith, la dame de la police. J'aime bien ses cheveux. » Jason se retourna vers sa fille. Le visage de Ree était barbouillé de beurre de cacahuète d'un côté, de confiture de l'autre, et elle le regardait à nouveau avec ses grands yeux marrons. « Tu sais que tu peux tout me dire, » souffla-t-il. Ree reposa son sandwich. « Je sais, papa, » répondit-elle, mais sans plus le regarder. Elle mangea 2 grains de raisin blanc sans entrain, puis disposa les autres sur son assiette autour des pétales blancs de la marguerite. « Tu crois que Mr. Smith va bien ? Les chats ont 9 vies. Mais pas les mamans. » Il ne voyait pas quoi répondre. Il essaya d'ouvrir la bouche, de trouver une parole vaguement rassurante, mais rien ne venait. Il avait surtout conscience que ses mains étaient à nouveau agitées de secousses convulsives et qu'au fond de lui-même, quelque chose s'était glacé. Un endroit où il n'aurait sans doute plus jamais chaud. « Papa, je suis fatiguée, » dit Ree. « Je veux faire la sieste. »«
D'accord, » répondit-il. Ils montèrent à l'étage.
Jason regarda Ree se brosser les dents, se demanda si Sandy avait fait la même chose. Il lut 2 histoires à Ree, assis au bord de son lit, se demanda si Sandy avait fait la même chose. Il chanta une chanson, borda la couette autour des épaules de sa fille et l'embrassa sur la joue, se demanda si Sandy avait fait la même chose. Il était arrivé jusqu'à la porte lorsque Ree se mit à parler, l'obligeant à se retourner. Il avait croisé les bras sur la poitrine, les poings coincés sous ses coudes pour que Ree ne puisse pas voir ses mains trembler. « Tu veux bien rester, papa, jusqu'à ce que je m'endorme ?»«
D'accord. »
« Maman m'a chanté Puff the Magic Dragon. Je me souviens qu'elle a chanté Puff the Magic Dragon. »
Bon.
Ree s'agita nerveusement sous les couvertures.
Tu crois qu'elle a retrouvé Mr. Smith maintenant? Tu crois qu'elle va rentrer?
J'espère. Elle finit par s'immobiliser.
Papa, murmura-t-elle.
Papa, j'ai un secret.
Il prit une grande inspiration, se força à adopter une voix enjouée.
Vraiment?
Parce que tu te souviens de la règle du papa?
La règle du papa?
Oui, la règle du papa. Quel que soit le secret, tu as le droit de le dire à un papa, et ensuite il t'aidera à garder le secret.
Tu es mon papa?
Oui, et je suis très fort pour garder les secrets, tu peux me croire.
Elle lui sourit, puis en digne fille de sa mère, elle se tourna sur le côté et s'endormit sans un mot de plus.
Il attendit encore 5 minutes, puis sortit doucement de la chambre et parvint à grand-peine à descendre les escaliers. Il conservait la photo dans le tiroir fourre-tout de la cuisine, à côté de la lampe torche, du tournevis vert, de restants de bougies d'anniversaire et d'une demi-douzaine de marques vertes dont il ne se servait jamais. Sandra le taquinait à propos de cette petite photo dans son pauvre cadre doré.
« Je t'en prie, on croirait que tu planques la photo de ton amour de lycée. Pose-la sur la cheminée, Jason. C'est comme de la famille pour toi, ça ne me dérange pas. »
Mais la femme de la photo n'était pas de la famille. Elle était vieille, 80, 90 ans, il ne savait plus. Elle était assise dans un fauteuil à bascule, sa frêle silhouette comme perdue sous un monceau de vêtements hérités d'autrui. Une chemise d'homme à carreaux bleu marine, ceinturée sur un pantalon en velours marron, et qui disparaissait presque sous un ancien blouson militaire. Elle souriait avec ce grand sourire plein de jubilation qu'ont les vieillards, comme si elle avait un secret, mais que le sien était meilleur que celui des autres. Il adorait son sourire, il adorait son rire. Elle n'était pas la famille, mais elle était la seule personne qui, pendant très longtemps, lui avait donné un sentiment de sécurité. Il se cramponna à sa photo. Il la serra contre lui comme un talisman, puis ses jambes le lâchèrent et il s'affaissa sur le sol de la cuisine. Il se remit à trembler. D'abord ses mains, puis ses bras, son torse, des secousses profondes qui descendaient le long de ses cuisses, de ses genoux, de ses chevilles, jusqu'au moindre doigt de pied. Il ne pleura pas, n'émit pas la moindre protestation, mais il tremblait si violemment qu'il lui semblait que son corps allait se disloquer, sa chair se détacher de ses os, ses os se brisaient en un millier de fragments.
« Putain, Sandy !» dit-il en posant sa tête tremblante sur ses genoux tremblants.
Puis il s'avisa, un peu tard, qu'il ferait mieux de faire quelque chose pour cet ordinateur. Le téléphone sonna 10 minutes après. Jason n'avait envie de parler à personne, mais il se dit, un peu sottement, que c'était peut-être Sandy qui appelait de quelque part, alors il décrocha. Ce n'était pas sa femme. C'était une voix masculine, et l'homme dit « Vous êtes seul chez vous ?»«
Qui est à l'appareil ?»«
Votre fille est là ?» Jason raccrocha.
Le téléphone sonna à nouveau, le même numéro s'afficha.
Cette fois-ci, Jason laissa le répondeur décrocher. La même voix masculine retentit. « Je vais considérer ça comme un oui. Le jardin de derrière, dans 5 minutes, ça va vous intéresser. » Puis l'homme raccrocha.
« Je t'emmerde !»
dit Jason à la cuisine déserte. Ce n'était pas une chose intelligente à dire, mais cela le soulagea. Il monta au premier, jeta un œil sur Rhee. Presque ensevelie sous les couvertures, elle dormait à poings fermés. Sans y songer, il chercha du regard la boule de poils cuivrée qui se trouvait habituellement au pied de sa fille. L'endroit était vide et Jason ressentit à nouveau ce coup au cœur.
« Putain, Sandy !»
marmonna-t-il avec lassitude, avant de prendre son manteau pour sortir dans le jardin. Son interlocuteur était plus jeune qu'il ne s'y attendait. 22, 23 ans. La silhouette longiligne d'un jeune homme qui ne s'était pas encore étoffé et ne s'étofferait sans doute pas avant le début de la trentaine. Le gamin avait escaladé la clôture en bois qui fermait le jardin de Jason. Il sauta à terre et avança en quelques pas bondissants. Il se déplaçait comme un chiot golden retriever avec ses cheveux blonds flottants et ses longs membres élancés. Il s'immobilisa dès qu'il aperçut Jason, puis s'essuya les mains sur son jean. Il faisait frisquet dehors et il ne portait qu'un t-shirt blanc avec un imprimé de lettres noires décolorées, pas de manteau. Si la froidure de ce mois de mars le dérangeait, il n'en montrait rien.
Hey, le flic devant.
« Sûr que vous savez, je voulais pas qu'on me voie, » dit-il comme si ça expliquait tout. Jason remarqua qu'il portait un élastique vert autour du poignet gauche et qu'il le faisait claquer distraitement, comme un tic. Qui êtes-vous ?
Un voisin, dit le gamin. Je vis à 5 maisons d'ici. Je m'appelle Aidan Brewster. On s'est jamais rencontrés. Clac, clac, clac.
Jason ne répondit rien.
Je suis du genre solitaire, indiqua-t-il, comme si, là encore, ça expliquait tout.
Jason ne répondit rien.
Votre femme a disparu, dit le gamin.
Clac, clac, qui vous l'a dit ?
Il haussa les épaules. Pas besoin de me dire. Les flics font une enquête de voisinage. Ils cherchent une disparue. Un enquêteur campe devant chez vous, donc c'est forcément d'ici que ça part. Vous êtes là, votre gosse est là, conclusion, c'est votre femme qui a disparu.
Il recommença à faire claquer l'élastique, s'en aperçut cette fois et resta les deux bras ballants.
Que voulez-vous ? Demanda Jason.
Vous l'avez tuée ?
Jason dévisagea le garçon. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est morte ?
Oh, c'est comme ça que ça se passe. On commence par signaler la disparition d'une femme blanche qui a 1, 2, 3 enfants. Les médias s'en mêlent, on forme des équipes de recherche, on retourne le quartier. Et puis entre 1 semaine et 3 mois plus tard, on retrouve le cadavre dans un lac, dans la forêt, dans le gros congélo du garage. Vous n'auriez pas de grand baril en plastique bleu par hasard ?
Jason fit signe que non.
Une tronçonneuse, un barbecue ?
J'ai une fille. Même si je possédais de tels objets, la présence d'un jeune enfant limiterait mes activités.
Le gamin haussa les épaules.
Apparemment, il y en a que ça n'a pas empêché de faire le boulot.
Sortez de mon jardin.
Pas encore. Faut que je sache. Avez-vous tué votre femme ?
Qu'est-ce qui vous fait penser que je vous le dirai ?
Je sais pas. On se connaît pas, mais je me suis dit autant poser la question. C'est important pour moi.
Jason le considéra 1 minute et s'entendit répondre.
Je ne l'ai pas tué.
Bon, moi non plus.
Vous connaissez ma femme ?
Blonde, grands yeux marrons, un sourire un peu intrigant.
Jason le considéra à nouveau.
Oui.
Non, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je l'ai aperçue dans votre jardin.
Il recommença à faire claquer l'élastique vert.
Qu'est-ce que vous foutez là ?
Demanda Jason.
Je n'ai pas tué votre femme, répéta le garçon. Mais d'ici maximum 4 heures, continua-t-il en regardant sa montre, la police sera persuadée du contraire.
Pourquoi ça ?
J'ai des antécédents.
Vous avez tué quelqu'un ?
Non, mais ça n'aura aucune importance. J'ai des antécédents et comme je disais, c'est comme ça que ça se passe. Une femme a disparu, les enquêteurs commencent par ses proches, ce qui fait de vous le premier suspect potentiel, mais ensuite ils se renseignent sur tous les voisins. Et c'est là que j'entre en scène, le 2e suspect potentiel.
Mais est-ce que je suis plus suspect que vous ? Je ne connais pas la réponse à cette question, alors je me suis dit que je pourrais aussi bien faire un saut.
Vous voulez savoir si j'ai fait du mal à ma femme parce qu'alors vous seriez tiré d'affaire ?
S'étonna Jason.
C'est une question logique, répondit le jeune homme impassible.
Bon, vous prétendez que vous ne l'avez pas tué, et je sais que je ne l'ai pas tué, ce qui nous amène au problème suivant.
À savoir ?
Personne ne nous croira, ni l'un ni l'autre. Et plus nous clamerons notre innocence, plus nous tomberons sur l'orable. Ils vont gaspiller un temps et une énergie précieux à essayer de nous faire avouer, au lieu de chercher ce qui est réellement arrivé à votre femme.
Jason ne pouvait pas le contredire.
C'était pour cette raison qu'il s'était tué toute la matinée. Parce qu'il était le mari, et que le mari est toujours suspect d'emblée. Si bien qu'à chaque fois qu'il ouvrirait la bouche, la police ne guetterait pas des preuves de son innocence, mais plutôt n'importe quel faux pas démontrant sa culpabilité.
Vous semblez bien connaître le système, dit-il au gamin.
Je me trompe ?
Sans doute pas.
Bon, alors à en croire le vieux proverbe qui dit que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, les flics sont nos ennemis communs et nous sommes désormais amis.
Je ne sais même pas qui vous êtes.
Aidan Brewster.
Voisin, mécanicien, innocent. Qu'avez-vous besoin de savoir d'autre ?
Jason fronça les sourcils. Il aurait dû être plus vif, voir le défaut évident d'une telle affirmation. Mais il sentait le stress et l'épuisement le rattraper. Il n'avait pas dormi depuis près de 30 heures. Il s'était d'abord occupé de lui, puis s'était rendu à son travail avant de revenir sur les lieux de la catastrophe. Son cœur s'était littéralement arrêté entre le moment où il avait découvert la grande chambre vide et celui où, ayant parcouru les 4 mètres du couloir, il avait posé la main sur la poignée de la porte de Rhee, tourné, poussé, sans aucune idée de ce qu'il allait trouver dans la chambre. Puis, lorsqu'il avait aperçu la silhouette allongée de sa fille, qui dormait à poings fermés sous l'édredon, il avait reculé en chancelant et réalisé l'instant suivant que la présence de Rhee soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Brusquement,
après 5 années à mener une existence presque normale, à avoir presque l'impression d'être une vraie personne, c'était fini, foutu, terminé, en un clin d'œil. Il était retombé dans l'abîme, un lieu qu'il connaissait mieux que quiconque, mieux même que ce criminel d'Aidan Brewster. Bon, reprit celui-ci avec brusquerie, ça vous arrivait de battre votre femme ? Jason le dévisagea. Autant répondre, lui dit son voisin. Si la police ne vous a pas cuisiné ce matin, ça ne va pas tarder.
Je ne battais pas ma femme, répondit Jason à mi-voix, essentiellement parce qu'il avait besoin de s'entendre dire ces mots, de se rappeler que ça, au moins, c'était vrai. D'oublier les vacances de février, d'oublier ce qui s'était passé. Des problèmes conjugaux ? Nous ne travaillons pas aux mêmes horaires, nous ne nous voyons jamais assez pour nous disputer.
Ah, relation extra-conjugale alors. Vous, elle, les deux ?
Pas moi, dit Jason.
Mais elle avait un petit à côté, une liaison en cours.
Le mari est toujours le dernier au courant, non ?
Répondit Jason, philosophe.
Vous croyez qu'elle est partie avec lui ?
Elle n'aurait jamais abandonné Ri.
Donc, elle avait un amant et elle savait que vous ne la laisseriez jamais emmener votre fille. Jason cligna des yeux, à nouveau envahi par l'épuisement.
Attendez une minute.
Le gamin s'impatienta. « Allez, mon vieux, reprenez-vous, vous irez croupir en tôle avant la fin de la journée. »«
Je ne ferai aucun mal à ma fille et j'aurai accordé le divorce à ma femme. »«
Vraiment. Vous auriez renoncé à cette maison, un placement immobilier de premier choix à Saoudi. »«
L'argent n'est pas un problème pour nous. »« Vous êtes friqué alors. Encore plus de pognon qu'il faudrait lâcher. »« L'argent n'est pas un problème pour nous. »«
C'est des conneries. L'argent est un problème pour tout le monde. Là, vous parlez comme un coupable. »
« Ma femme est la mère de ma fille », se surprit à dire Jason, irrité. « Si nous nous séparions, je voudrais qu'elle ait les moyens d'élever mon enfant. »«
Femme, enfant, femme, enfant, vous les dépersonnalisez. Vous prétendez les aimer tellement vous ne leur feriez jamais de mal, et pourtant vous ne pouvez même pas vous résoudre à les appeler par leur nom. »«
Ça suffit, je refuse de discuter davantage. Vous avez tué votre femme ? Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. »«
Vous avez raison, je me casse. Je vous ai parlé 10 minutes et déjà je crois que vous êtes carrément coupable. » Eh, tant mieux, ça veut dire que je n'ai pas de soucis à me faire.
Allez, à plus.
Le gamin se dirigea vers la clôture. Il avait déjà empoigné les lattes et s'apprêtait à se hisser lorsque Jason vit l'élément qui lui manquait depuis le début.
Vous m'avez demandé si ma fille était à la maison, cria-t-il à travers le jardin. Vous m'avez parlé de ma fille.
Le gamin était en haut à présent, à califourchon sur la clôture. Jason courut vers lui.
Salopard, vos antécédents, dites-moi ce que vous avez fait. « Dites-moi exactement ce que vous avez fait. »
Le gamin s'arrêta en haut de la clôture. Il n'avait plus l'air d'un chiot golden retriever. Quelque chose dans son regard avait changé. Son visage avait pris une expression impénétrable, dure. « Inutile, vous avez déjà deviné. »
« Se renseigner sur votre passé, mon cul. Vous avez été condamné pour crime sexuel, hein ?»«
Vous êtes dans le fameux fichier des délinquants sexuels. Ils seront devant chez vous dans 1 heure. »«
Ouais. »
Mais ils vous arrêteront quand même dans 2. J'ai pas tué votre femme, elle est trop vieille pour moi.
Fils de pute. Et je sais quelque chose que vous ignorez. J'ai entendu une voiture hier soir. À tous les coups, j'ai vu la voiture qui a embarqué votre femme.